un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire qui commence il y a 10 ans et qui arrive à un homme qui s'appelle Noël, Loïc Noël. On dirait bien un conte, mais en pas drôle, un rêve terrifiant ou plutôt un cauchemar dont il se réveille à peine. L'histoire d'un homme au-dessus de tout soupçon, un homme sans histoire, qui cultive la discrétion comme certains l'arrogance. L'histoire se passe à Liège, en Belgique. C'est un fait divers rare, mais qui en dit long sur les dérives et désarrois de notre monde 2.0. On espère que le raconter aidera au moins un peu à ce qu'il devienne du passé, un vieux truc début du siècle. Hacking sauvage, tout de suite, c'est un récit glaçant de Pierre Bafoual. Et je précise que les messages sonores que vous entendrez sont authentiques. Ce sont bien ceux que Loïc Noël a reçus et que tous les éléments techniques ont également été vérifiés et sont exacts.
Je m'appelle Loïc Noël, j'ai 33 ans, je vis à Liège en Belgique. Je suis directeur d'un centre de promotion à la santé à l'école et au moment des faits, j'avais 21 ans. J'ai grandi à Graisselogne, donc une commune proche de la ville de Liège. Adolescent, j'étais une personne très studieuse. J'avais un cercle d'amis très très restreint. J'ai toujours été quelqu'un de très pondéré, très réfléchi. J'étais pas la personne qui allait faire la fête relativement souvent, donc j'étais vraiment axé sur mes études et mon avenir professionnel. Depuis le plus jeune âge, moi, j'ai toujours été attiré par l'histoire, par l'archéologie, que ce soit l'Égypte ancienne ou la Grèce antique, donc j'ai toujours voulu devenir archéologue. Je voulais absolument faire ces études-là. Donc j'étais étudiant en histoire de l'art et archéologie, je revenais de mes cours. J'étais installé sur le canapé, j'avais enclenché une de mes séries préférées. Et puis là, j'ai reçu d'abord un premier message sur mon téléphone. Donc mon téléphone s'est mis à vibrer. Je l'ai d'abord laissé de côté, j'ai pas du tout prêté attention. Et puis, lorsque j'ai regardé le message, je me suis aperçu que c'était un message de menace qui m'était adressé. Donc le message disait « Je vais te tuer, je vais te buter, Loïc. Je vais avoir ta peau ». Au départ, j'étais assez interloqué par la teneur du message. Et puis, au fur et à mesure des autres messages reçus, j'ai commencé à paniquer, à me rendre compte que les messages étaient vraiment dirigés contre moi. Les messages ne provenaient pas d'un numéro classique, c'était un numéro spécial, 3, 4, 5, 6. J'ai directement averti mes parents de la situation pour essayer de comprendre. Et au fur et à mesure de la soirée, j'ai reçu d'autres messages, toujours avec des menaces qui m'étaient adressées, et progressivement aussi des appels. Mon numéro était associé à des annonces de prostitution, à des ventes de véhicules, à des ventes de maisons, si bien que mon téléphone n'arrêtait vraiment pas de vibrer, ça a duré toute la nuit. J'ai dû éteindre mon téléphone, et le lendemain, lorsque j'ai allumé mon téléphone, j'ai encore reçu des messages de menaces et des appels en tout genre.
Je vais te buter, Loïc. Je vais t'égorger, toi et ta famille. Je vais pourrir ta vie et tu ne t'en remettras jamais.
Suite à ça, j'ai décidé de me rendre au commissariat de police de mon quartier pour porter plainte. Le but était vraiment que ça s'arrête. L'inspectrice a pris ma plainte, elle était assez étonnée du nombre de messages reçus et des propos qui étaient tenus. Le fait que ce soit un numéro spécial a inquiété l'enquêtrice, car ce n'était pas simplement des messages qu'une personne pouvait envoyer à une autre, il y avait quand même un acte technique qui était derrière. Les jours qui ont suivi, les messages ont continué, les appels également. Progressivement, mes réseaux sociaux ont été hackés, donc on a pris possession de mes mots de passe, et la personne qui était derrière tout ça a envoyé elle-même des messages via mon compte à des proches. Donc des messages toujours de menaces, des messages lancés un peu au hasard, mais également des messages qui étaient adressés à des personnes spécifiques. Un exemple, donc il y a une personne qui était proche de moi qui avait des tendances suicidaires, et le hacker a justement joué sur la corde sensible et a envoyé des messages « va te jeter d'un pont, je sais que tu vas le faire ». Donc c'était des messages qui étaient vraiment bien ciblés par rapport à la personne. Des proches ont reçu des appels et des SMS qui provenaient de mon numéro. Donc là aussi, mon numéro était utilisé pour envoyer des menaces à des personnes proches de moi, mais également à des inconnus. Il y a notamment une dame qui avait perdu son mari il y a quelques semaines, qui a reçu des messages se faisant passer pour son mari décédé, en indiquant la liste des médicaments qu'il prenait avant de mourir. Pour en arriver à un tel point de manipulation, ben voilà, maintenant je ne suis pas ton mari, je suis Loïc Noël, je t'ai eu, va porter plainte et va te jeter d'un pont. Et donc une nouvelle plainte est venue contre moi. C'était l'une des premières, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines. J'étais convoqué pratiquement toutes les semaines pour répondre à toutes les menaces que des personnes recevaient. Et à chaque fois, c'était la même histoire. Donc j'expliquais que je n'étais pas derrière tout ça. Et donc une des hypothèses émises par la police et la plus plausible était que la personne qui souhaitait me faire du mal avait payé un hacker qui agissait dans l'ombre. À ce moment-là de l'histoire, j'ai pas de soupçon, étant donné que je n'ai pas d'ennemis, j'ai pas fait de mal à quelqu'un, donc je ne comprends vraiment pas pourquoi on s'attaque à moi particulièrement. Lorsqu'on a touché à mes réseaux sociaux, je ne me suis pas forcément inquiété au départ, mais lorsque mon compte universitaire a été pris, le principe était le même, des messages de menace à certains de mes professeurs. Là, j'ai ressenti de la peur. C'est vrai qu'il y avait une certaine image de moi que j'essayais de préserver au sein de l'université. J'étais quelqu'un d'assez studieux et je comptais vraiment poursuivre mes études le mieux possible. Et là, toute ma vie était totalement hors de contrôle. C'est plus moi qui contrôlais tout ce que je pouvais dire, tout ce que je pouvais faire. On a pris contact avec le service informatique de l'université, mais on n'a pas pu identifier d'où pouvait provenir le hacking. Donc tous ces événements-là se sont passés durant l'année 2012. C'était assez déstabilisant au départ et puis inquiétant étant donné que cela ne n'arrêtait pas. Donc c'était vraiment un déferlement continu de haine à petite dose. À l'époque, j'étais étudiant moniteur au service d'antiquité méditerranéenne. Donc je préparais certains cours pour le professeur titulaire. Et une de mes tâches consistait à scanner des images qui provenaient de livres. Donc j'étais à la bibliothèque, je scannais les différentes pages, et tout à coup sur l'écran de mon ordinateur est apparu un compte à rebours, 3, 2, 1, boum, et puis une bombe est apparue en dessin sur l'ordinateur. Il s'est éteint et j'ai perdu tous les scans. J'ai appelé ma maman qui est venue me chercher, et lorsque je rentre, elle prend le courrier à la sortie de la voiture, et parmi les lettres, il y a une lettre qui provient de l'université. On s'assied, on l'ouvre et on se rend compte que c'est une lettre d'exclusion. Donc je serai exclu de l'université parce que des professeurs ont reçu des messages d'insultes de ma part. C'est le monde qui s'écroule. Mes études ont toujours été ma priorité. Je panique totalement. Heureusement, mes parents décident de contacter directement le cabinet du rectorat et on se rend compte que c'est un faux. Et que la signature qui a posé sur la lettre est celle de Barack Obama. Donc voilà, on se rend compte que c'est totalement grotesque. On a de nouveau porté plainte et j'ai donné mon téléphone portable et mon ordinateur à la police pour qu'on puisse mener des analyses et trouver qui est derrière tout ça. Fin de l'année 2012, le jour du réveillon, mon compte Facebook a été hacké et à minuit pile a diffusé une photo de moi nu. Je l'ai découvert assez rapidement car plusieurs personnes m'ont contacté en me disant qu'une photo de moi circulait. Avant de la voir, j'imaginais simplement que c'était un montage. Lorsque je l'ai vu, je me suis rendu compte que c'était une photo réelle, une photo que je n'avais évidemment pas prise moi-même. Le hacker a utilisé, semble-t-il, le capteur de mon téléphone portable pour capturer à mon insu mon image à la sortie du bain. Je tenais probablement mon téléphone pour couper la musique, et la personne a utilisé à distance le capteur de l'appareil photo. À l'époque, le fait de signaler une image n'était pas quelque chose d'assez établi sur Facebook. Donc l'image a circulé pendant super longtemps, un jour où les personnes allaient justement se souhaiter bonne année sur les réseaux sociaux. Non seulement ma vie était jetée aux yeux de tout le monde via des messages, via des menaces, via une divulgation d'informations, mais là c'était carrément mon corps, et donc c'était la dernière étape de la mise à nu totale que la personne pouvait me faire subir. Lorsque je récupère l'accès à mon compte Facebook, je me rends compte que il y a un message qui est dans mes messages envoyés, et je suis à la fois le destinataire et l'expéditeur. Et ce message donc est le suivant: inutile de faire des recherches, ce sera toi qui seras pris. Je peux aller plus loin que ton compte Facebook. Ton numéro de compte en banque est le 7355. Dépose 5000 euros dans une poubelle de la place Saint-Lambert. Samedi prochain, 8h du soir, Saint-Lambert. Je ne souhaite pas au départ rentrer dans ce jeu-là, et j'ai plutôt envie de me protéger, mais la police décide de m'accompagner, de mettre en quelque sorte une filature et un dispositif pour essayer d'intercepter la personne. Je dépose l'argent dans la poubelle, et rien ne se passe, hormis un message que la police reçoit sur mon téléphone. « Ha ha ha, t'as prévenu les poulets, je vous entends. » Évidemment, je reprends un nouveau téléphone. L'histoire recommence. Donc, j'ai même pris des téléphones qui n'étaient pas du tout connectés à Internet. J'ai pris des vieux téléphones qui n'étaient pas des smartphones. Et malgré le fait qu'on changeait régulièrement de téléphone, ma famille et moi, plusieurs fois, on recevait des messages qui répondaient à des choses qu'on avait dites oralement. Donc on était à un repas de famille, on parlait, on était tous ensemble, donc ma famille et moi. On disait quelque chose et la personne réagissait par SMS, en étant précis par rapport à ce qu'on venait de dire dans la pièce. On a évidemment fait part de ça à la police. Les enquêteurs sont venus pour vérifier s'il n'y avait pas des micros quelconques. La supposition était que ça provenait des téléphones, mais on n'a pas pu identifier clairement le procédé qui permettait d'arriver à ce genre de situation. On se sent totalement piégé, y compris chez nous. Lorsqu'on est victime de harcèlement quelconque, on peut toujours se protéger et trouver un refuge quelque part. Là, qu'on soit chez nous, qu'on soit à l'étranger, qu'on soit dans le bus, on est constamment attaqué par la personne et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est connu par la personne qui, a priori, nous veut du mal.
Arrête de chercher qui je suis. J'ai une longueur d'avance et tu ne mourras jamais. Tu vas crever. Je vais t'étriper.
Vu l'ampleur des menaces que l'on recevait, mon dossier a été transmis à la Computer Crime Unit de Liège. Donc c'est la police qui s'occupe de tout ce qui est hacking et cyberharcèlement. Mon ordinateur a été analysé ainsi que mes différents téléphones livrés. Et un jour, je suis appelé donc par l'enquêteur en charge de mon dossier au sein de cette brigade-là. Je suis plein d'espoir à ce moment-là. Je pense qu'on a enfin pu identifier la personne et que ce sera de l'histoire ancienne assez rapidement. Et au fur et à mesure de la rencontre, je m'aperçois que la police n'a pas forcément d'éléments incriminant une personne, mais plutôt des éléments qui auraient tendance à montrer qu'en réalité, je suis derrière tout ça. Donc, elle me montre des captures d'écran. On voit des sites que j'ai réellement consultés et on y associe d'autres fenêtres, d'autres faits qui n'ont pas été réalisés sur mon ordinateur et encore moins par moi. Je ressens très vite que je passe de la victime à un suspect et la police insinue progressivement que je serais peut-être atteint d'un trouble psychiatrique. À ce moment-là, je suis assez perdu parce que j'ai toujours considéré la police comme étant au service des personnes. J'ai toujours eu une haute estime de toutes les instances judiciaires. Et là, je me rends compte que tout se retourne progressivement contre moi. Je me défends comme je peux. Je suis quelqu'un d'assez calme. Et donc, même dans une situation comme ça, j'essaie de leur expliquer par la logique que ça ne peut pas être moi. Je donne les raisons. Et le fait d'être resté très calme a joué en ma défaveur parce que la police estimait que j'aurais dû retourner d'état, mais que j'aurais dû m'emporter en disant « non, c'est pas moi ». J'ai une façon d'agir qui n'est pas du tout comme celle désirée par les policiers. J'essaye de poursuivre malgré tout mes études en histoire de l'art et archéologie. J'ai la chance de décrocher un stage de fouilles archéologiques via l'Université de Bruxelles. Donc je pars en Grèce pendant un mois. Tout se passe bien au départ. Je continue évidemment de recevoir plusieurs messages indiquant que je vais finir en prison et qu'il va y avoir une alerte à la bombe. J'ai déjà reçu plusieurs fois ce genre de message-là. Rien n'a été commis, donc je ne m'inquiète pas à outre mesure. J'en avertis malgré tout la chef de chantier. Et puis, un jour, à la sortie du chantier, je marche avec mes collègues le long d'une route pour aller chercher à manger et débarque deux combis de police. Ils sortent armés des voitures. La police me demande de confirmer mon identité et puis tout à coup, je suis projeté sur le capot d'une des voitures. Je suis menotté et je suis embarqué par une des voitures pour retrouver notre hôtel afin de procéder à des fouilles. Car la police était à la recherche d'un dispositif qui aurait permis de mettre une bombe à l'aéroport d'Athènes. La police me confirme qu'elle a reçu un appel avec une voix robotisée indiquant que « Je suis Loïc Noël, je vais poser une bombe à l'aéroport d'Athènes, venez me chercher. » Dans le message, on délivre mon adresse. S'ensuit une fouille minutieuse de mon logement. Évidemment, ils ne découvrent rien relatif à une bombe. Ils prennent notamment un cahier de notes qui, en réalité, concerne mes recherches en astronomie antique et décident de regarder page après page. Et je dois commenter tout ce qui est noté sur le document. Après plusieurs heures, je suis de nouveau embarqué par la police. Et là, je suis incarcéré dans une prison d'un village voisin. Je passe la nuit au cachot avec des personnes qui ont commis des choses horribles. Il y a notamment deux personnes albanaises qui ont tué une dame âgée pour lui voler son sac, et je suis dans une toute petite cellule avec plein de personnes de ce genre-là, et je suis complètement paniqué. Je parle un peu la langue, mais pas au point de pouvoir me débrouiller dans des circonstances comme celle-là. Je n'ai pas droit à de la nourriture, j'ai pas droit à boire, j'ai le droit de rien faire. J'ai pu sortir une fois de la cellule pour me rendre aux toilettes, et au moment où je rentre dans la cellule, le policier referme violemment la grille sur ma jambe en disant « saleté de terroriste » et en plus « tu es belge et tu es responsable de la dette du pays ».
Tu vas finir en prison et crever là-bas. T'es mort mon gars. Je te retrouverai. Toujours.
Le lendemain, il y a une première audience qui a lieu. Il n'y a pas de traducteur. Ma chance est que ma chef de chantier est grecque d'origine, donc a pu malgré tout traduire pour me donner un aperçu de ce qui se passait. Ma famille a débarqué en Grèce pour apporter le dossier, pour essayer de prouver qu'il y avait des soupçons de hacking et que je n'étais pas responsable de tout ça. Malgré tout, la justice grecque ne veut rien entendre. Elle veut bien que je quitte le pays, mais malgré tout, elle se refuse à estimer que je suis innocent dans l'histoire. Donc je rentre en Belgique, et plusieurs mois plus tard, la justice décide de trancher, et je suis condamné donc à plusieurs années de prison et à une amende, avec sursis pour diffusion de propos mensongers et entraîner la terreur et la peur de tout le peuple grec. Je me rends compte assez rapidement que voyager va être très compliqué pour ma sécurité et pour la sécurité de mes proches. J'étais en option Antiquité méditerranéenne, donc évidemment j'étais obligé de voyager pour mes études. Je décide de changer d'orientation, donc je me tourne plutôt vers l'époque contemporaine qui me permet de rester en Belgique pour suivre mes études. Je l'ai fait à contre-cœur étant donné que ma passion était vraiment liée à l'Antiquité méditerranéenne et principalement à la Grèce. Et c'était peut-être le dernier élément de ma vie que je pouvais contrôler, le dernier choix que je pouvais faire. Et donc forcément, j'ai vraiment ressenti beaucoup de douleur en renonçant à ce rêve d'enfant. Les principaux faits sont passés entre 2012 et 2013, même si ça a continué pendant 5 ans. Je me rends bien compte que la justice belge ne parvient pas à m'aider. J'essaye moi-même de faire un travail d'introspection et d'essayer de comprendre qui peut être derrière tout ça. Et puis progressivement, des éléments sont apparus dans les messages que j'ai pu recevoir, des informations qui n'étaient pas contenues dans quelque appareil que ce soit, des petits détails qui pouvaient progressivement m'aiguiller vers une famille qui était proche de la mienne avant les faits. Une famille avec laquelle on a été en froid, mais sans pour autant que ce soit de nature à en arriver à des événements comme celui-là. Les soupçons que j'ai pu porter ont été confortés par d'autres éléments que seule cette famille-là pouvait connaître. Donc j'ai donné toutes les informations à la police. Ils ont pu mener une enquête pour essayer de savoir si mes soupçons étaient avérés ou pas, et la justice a estimé que ces soupçons n'étaient finalement pas fondés. Donc à partir de 2017, ma famille et moi décidons de faire appel à des hackers pour trouver des personnes compétentes qui pourraient d'abord nous protéger, mais également mettre en place des choses pour essayer de pister, essayer de trouver qui est à l'origine de tout ça. On essaye de contacter Anonymous, donc ces hackers éthiques qui s'occupent parfois de dossiers judiciaires. On est reçu par un représentant en Belgique, qui comprend la situation, mais il ne veut pas agir. Car c'est un milieu qui est relativement restreint, qu'un hacker peut aussi être de son côté dans d'autres dossiers, et qu'il a peur des répercussions. Malgré tout, je trouve un hacker en Belgique, via différents contacts, qui non seulement a les compétences, mais décide de prendre le dossier et d'agir. Et il parvient, après plusieurs tentatives, à identifier une adresse IP, qu'on localise du côté de Nantes. Progressivement, s'ensuit différentes attaques de l'un contre l'autre, donc du hacker éthique contre la personne qui m'attaque depuis plusieurs années. Et notre conseiller parvient à faire en sorte que la machine de l'autre personne, que l'ordinateur de l'autre personne, soit complètement hors d'usage. Et à partir du moment où le hacker de Nantes a pu être stoppé, les menaces et les attaques se sont progressivement réduites pour un beau jour s'arrêter, plus ou moins 5 ans après le début des premiers faits. En 2022, 10 années après le premier message reçu, je suis convoqué au tribunal, donc j'ai environ une quinzaine de chefs d'accusation contre moi. Donc ça va de usurpation d'identité à tentative de vol d'argent public pour la rançon, mais également pour des faits de hacking. Donc c'est vraiment des faits graves en tout genre. Malgré le temps passé, revivre ces événements-là n'est pas une chose facile à supporter. J'ai lutté pour me reconstruire, j'ai changé de voie professionnelle, j'ai essayé malgré tout de créer un cercle de proches solides et d'avancer dans tous les domaines. Je me retrouve face à tout ce que j'ai vécu pendant 5 ans. Et je dois affronter cette fois-ci des avocats qui affirment clairement que je suis coupable et qui essayent de démontrer en quoi est-ce que ça doit être moi. J'ai dû passer une première expertise psychiatrique pour prouver que j'étais ça d'esprit. À ma demande, j'en ai passé une deuxième pour accorder davantage de crédit à cet acte-là. Évidemment, j'ai été jugé totalement ça d'esprit. Et donc, après plusieurs heures de procès, la justice décide de se prononcer sur un non-lieu et les charges sont totalement abandonnées. Lorsque j'ai su que j'allais devoir affronter le tribunal, j'ai commencé à écrire pour y voir plus clair dans cette quantité énorme d'événements que ma famille et moi avons dû vivre. Et progressivement, l'idée de sortir un livre m'est venue. Et donc j'ai publié mon livre après le procès. Et une personne qui était dans ma sphère professionnelle a lu le livre et est revenue vers moi en m'affirmant qu'elle avait des informations. En réalité, cette personne-là est un hacker qui protège différentes sociétés. Et à l'époque, en 2012, elle avait été contactée par un groupe de hackers qui souhaitait sa participation pour traduire une sorte de jeu. Il s'agit d'une sorte d'arène où différents hackers payent un droit d'entrée pour s'attaquer à une cible et développent ainsi leurs compétences de hacking en essayant chaque fois des procédés de plus en plus compliqués. Et la cible n'est pas choisie au hasard. Il existe des commanditaires qui payent un droit d'entrée pour placer la personne au centre de l'arène. Et cette cible, apparemment, c'était moi. Avec le recul, cette information que j'ai pu obtenir bien des années plus tard a pu mettre en lumière certaines choses. La police a toujours affirmé que le hacking était trop gros pour arriver à une seule personne qui n'est pas dirigeant d'une société, qui n'est pas un milliardaire. Mais lorsqu'on se rend compte qu'il s'agissait plutôt d'un centre d'entraînement de hackers, ben il est facile d'imaginer qu'ensemble, ils peuvent développer énormément de compétences, ce qui explique la diversification des attaques que j'ai pu subir durant 5 ans. Toute cette histoire a eu beaucoup d'impact sur moi et sur ma vie. Lorsque je reçois simplement un message sur mon téléphone, ça m'arrive de penser que ça recommence alors que c'est simplement un proche qui me contacte. J'ai toujours des sensations très étranges lorsque j'entends des voix robotisées comme les GPS ou Siri, parce que ça me replonge directement dans les messages audio qui étaient lus et que je recevais régulièrement. Donc ça reste difficile à gérer au quotidien. Mon rapport aux autres a été aussi compliqué pendant ces années-là et reste toujours compliqué. Le fait de tisser des nouvelles relations, de pouvoir avoir confiance en d'autres personnes, c'est des choses qui ne sont pas toujours aisées pour moi. Étonnamment, j'ai un peu fait le deuil du fait de trouver qui peut être derrière tout ça. La justice n'a pas pu trouver, les hackers n'ont pas pu nous aider à identifier clairement le commanditaire. Enfin, j'ai vraiment fait le deuil, en fait. J'ai plutôt axé ça sur le fait de transformer cet événement négatif en événement positif. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'agir, de sensibiliser et de lutter de toutes les manières possibles contre le cyberharcèlement.
No 21st century love. I don't believe in the clouds up above. Saving my pictures and my words. All of my words. All of my words.
C'était Hacking Sauvage, un reportage de Pierre Bafoil réalisé par Sylvain Richard. Merci bien sûr à Loïc Noël. Les références de son livre, c'est sur notre site, à la page des Pieds sur Terre. Sachez également qu'en France, le 3018 est un numéro d'écoute gratuit et accessible 7 jours sur 7 de 9h à 23h à appeler si vous êtes victime ou témoin de cyberharcèlement. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.